Cap Sport.
Porter, tenir, soulever, courir ou encore sauter, non, ce n'est pas l'armée, mais c'est le crossfit. Cette discipline sportive allie plusieurs mouvements et combine différents efforts. Ce week-end, le Tektri Vitruve Contest se déroule à la Croisée des Loisirs à Delémont. La compétition mise sur pied par le club de crossfit de la capitale jurassienne réunit des adeptes de notre pays, mais également de l'étranger. Plus de 150 athlètes vont transpirer à Delémont ces prochaines heures. On mettra ensuite le cap sur le rectangle vert. C'est une avancée technologique qui va voir le jour sur les terrains de Super League de football. Les clubs de l'élite se sont prononcés favorablement aujourd'hui sur la VAR ou l'assistance vidéo à l'arbitrage. Une technologie qui a déjà été adoptée dans de grandes compétitions et qui sera instaurée dans les grands championnats l'année prochaine. Doit-on dès lors se réjouir de l'arrivée de cette technologie sur les terrains de l'élite de notre pays? Élément de réponse en deuxième partie de notre émission avec l'arbitre international neuchâtelois Lionel Tchudi.
Cap Sport, Michel Léoni.
Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Sport. Nous allons tout d'abord évoquer une pratique qui a le vent en poupe, le crossfit. Cette pratique allie plusieurs mouvements, sollicite d'ailleurs plusieurs muscles. Quand on cherche sur internet, on lui trouve comme définition que le crossfit combine la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et des sports d'endurance. Bref, une sorte de mélange entre plusieurs disciplines préexistantes. Ce week-end à Delémont, le crossfit est en fête avec l'organisation du Tektri Vitruve Contest à la Croisée des Loisirs. Cette compétition réunit plus de 150 athlètes venus de Suisse, mais également de l'étranger. Pour en parler, on accueille en direct de la Croisée des Loisirs Jordan Neschmann. Bonsoir.
Bonsoir, Michel.
Vous êtes le fondateur du CrossFit de Delémont et co-organisateur de ce Tektri Vitruve Contest. Alors, comment est-ce que le CrossFit se développe dans notre région?
Alors, on fait tout pour qu'il se développe de la meilleure des manières, notamment avec CrossFit de Delémont, donc ma salle, où on peut le pratiquer. Et puis les gens le pratiquent soit pour améliorer leur qualité de vie, donc comme activité physique, soit en compétition, ou les deux en fait. Et puis on a voulu développer une compétition à Delémont.
Quelles sont les personnes qui vous sollicitent pour pratiquer justement le crossfit?
Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est tout un chacun. C'est-à-dire que ça va de la ménagère aux sportifs d'élite qui cherchent à se préparer physiquement.
C'est quand on voit des vidéos ou même des photos hein, sur Internet, par exemple, on a plutôt tendance à décrire le crossfit comme un sport d'élite, donc ce n'est pas forcément le cas.
Non, alors il faut bien faire la différence entre le crossfit santé, donc l'activité physique, et le crossfit compétition, qui est pratiqué à hauteur de 2% seulement. Le 98% le pratique comme sport bien-être, parce qu'il fait travailler tout le corps, il renforce le corps, il affine le corps, il tonifie, et puis on améliore toutes les qualités physiques en fait, pour avoir une meilleure qualité de vie.
Alors on a parlé tout à l'heure d'une sorte de mélange de plusieurs sports, de plusieurs gestes en tout cas. Mais d'après vous, Jordan Eschmann, le crossfit, c'est aussi un sport à part entière?
Totalement. Donc, d'ailleurs, ce qui définit un sport, c'est qu'il y ait des championnats du monde. Et il y a des championnats du monde de crossfit, donc ça existe. Chaque année, ils sont organisés aux États-Unis. Donc le crossfit est un sport, oui.
Et où est-ce qu'il en est ce sport? Dans la région, en Suisse de manière un peu plus générale par rapport justement aux États-Unis, vous l'évoquez, ou d'autres pays qui pratiquent le crossfit?
Alors dans le Jura, ben, il se développe à travers ma salle, qui est l'unique salle du Jura où on peut pratiquer le crossfit licencié. En Suisse, on est environ maintenant à 90 salles qui ont vu le jour. Et puis alors maintenant en Europe, il vient en puissance, car notamment les qualifications pour les championnats du monde de crossfit, il y a plusieurs compétitions qualificatives et en Europe, c'est où il y en a le plus.
Justement, en Europe, il y a un développement considérable. Vous parlez du nombre de salles. En Suisse, est-ce que ce nombre de salles a évolué de façon considérable ces dernières années, ces derniers mois même?
Bah écoutez, pour vous donner une idée, j'ai ouvert ma salle en 2013, donc ça fait 5 ans. Et il y a 5 ans, je pense que j'étais dans la première dizaine, voire max la première vingtaine de salles de crossfit en Suisse. Donc en 5 ans, on est passé d'environ 20 à 90.
Et c'est un développement qui va crescendo d'après vous?
Oui, complètement. Car les gens aujourd'hui cherchent l'efficacité, cherchent le fun et la variété surtout. Et le crossfit est fait pour ça, car chaque entraînement, chaque jour est différent.
Quand on voit des vidéos, on n'a pas forcément toujours l'impression que c'est fun. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça l'est?
Alors, c'est hyper contradictoire ce que je vais dire, mais quand on souffre, on souffre, on est en inconfort durant notre session de CrossFit. On cherche l'inconfort pour devenir plus fort et ça libère, le corps libère du coup des endorphines, ce qui nous fait, ce qui fait obtenir en fait un bien-être du corps après. Et puis pendant, en fait, on est tellement aidé par les partenaires, par l'ambiance qui est vraiment totalement différente de ce qu'on peut s'imaginer, notamment les gens qui pensent que c'est comme une salle de fitness. Non, non, alors là, ils se trompent. C'est vraiment une grande famille. C'est presque un club sportif dans lequel tout le monde se soutient pour obtenir des résultats.
C'est ça dont on a l'impression quand on voit des cours de CrossFit, c'est l'individuel mis au service quelque part d'un collectif, ou plutôt le collectif qui vient en aide à l'individuel, si on veut bien donner les deux sens.
Ben écoutez, oui, totalement, mais pour vous donner une image, à la fin d'une épreuve qu'on appelle workout dans notre jargon, le sportif qui est dernier sera beaucoup plus aidé, supporté finalement, que le premier. Le premier sera acclamé par le public, ou alors à l'entraînement en salle, le coach va lui dire bien joué, mais la dernière personne aura finalement tous les athlètes qui ont déjà terminé, qui vont aller l'aider à terminer, et c'est ça qui crée cette cohésion.
On en parlait tout à l'heure d'une pratique qui allie plusieurs gestes, différentes disciplines même. Alors quelle liberté est-ce que vous avez finalement dans l'enseignement de cette pratique ?
La seule limite, je dirais que c'est l'imagination du coach et la sécurité de l'athlète. Car tout doit se faire de manière sécuritaire, techniquement et au niveau de la charge. Car il faut savoir que le CrossFit s'adapte à la personne et ce n'est pas la personne qui s'adapte au CrossFit. Donc pour vous donner un exemple, chez moi j'ai des gens qui ont un handicap physique ou alors qui se remettent de blessures. Ça va jusqu'à l'athlète d'élite qui est en pleine forme. Donc je dois adapter l'entraînement à tout un chacun, ça c'est une première chose. Et puis oui, le CrossFit est tellement complet et tellement vaste que finalement seule la limite de l'imagination peut le stopper.
Alors, concrètement, comment est-ce que les gens qui ne connaissent pas cette pratique pourraient se l'imaginer ?
Alors ils peuvent venir ce week-end à la Croisée des Loisirs en sachant que c'est une compétition, donc ils verront à quoi ressemble le CrossFit. Et ensuite, je les invite à venir essayer une séance d'entraînement chez moi.
Justement, comme vous dites, les inviter à voir ce qu'est le CrossFit, dans les grandes lignes, c'est justement quoi le CrossFit ? Qu'est-ce qui en fait sa particularité ?
Alors, la particularité du CrossFit, c'est que vous allez voir des athlètes qui vont courir, qui vont sauter, lancer, ou alors qui vont porter des charges de légères à lourdes, qui vont utiliser des barres de traction pour se soulever. Il y a aussi des anneaux de gymnastique et plein d'objets insolites que vous n'avez jamais vus. Les athlètes vont même skier, imiter le mouvement de ski de fond, en fait, sur un appareil qui est prévu pour ça.
On a parlé de votre compétition tout à l'heure, venons-en peut-être un peu plus en détail maintenant. Le Vitruve Contest, donc, qui vit là sa deuxième édition, celle-ci est réservée aux adeptes de CrossFit finalement expérimentés ?
Non, pas du tout, parce qu'on a développé deux catégories. On a divisé les Swiss Teams, qu'on a appelé, donc c'est un terme anglais, c'est des équipes suisses, avec des gens qui résident ou qui sont exclusivement suisses. Et en fait, le niveau de cette compétition a été déterminé par un tout niveau. C'est-à-dire que dans ma programmation des épreuves, j'ai dû bien faire attention pour qu'aucun athlète ne soit en échec, tout simplement.
Vous aviez une cinquantaine de participants l'an dernier au Vitruve Contest. Cette année, vous avez quasiment triplé les inscriptions. Comment est-ce que vous expliquez finalement cet engouement ?
Eh bien, j'espère tout simplement que c'est d'une part parce qu'ils ont été satisfaits de la première édition et que d'une autre part, on a bien fait notre travail de communication au niveau de ce qu'on allait mettre en place. Car il faut savoir qu'on est la première compétition de CrossFit en Suisse à offrir aux athlètes un direct filmé par des professionnels, donc des caméras HD, filmé par la maison Image et Son, donc, qui ont déjà travaillé avec la RTS. Et ils seront filmés en direct et redistribués tout ça sur YouTube avec vraiment une mise en page digne des Jeux Olympiques.
Alors, vous écoutez, on se rend bien compte que le CrossFit, c'est une sorte d'état d'esprit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir concrètement ce week-end à la Croisée des Loisirs ?
Vous allez voir des gens dépasser leurs limites pour eux-mêmes et pour leur équipe. Et puis vous allez voir des athlètes, des équipes extrêmement fair-play se soutenir entre elles et pousser une autre équipe à terminer l'épreuve avant de penser classement ou quoi que ce soit d'autre.
Il y a une notion de spectacle qui est globalement importante dans le CrossFit quand on parcourt la toile. Est-ce que cette notion-là, vous allez la mettre en avant aussi à la croisée des loisirs ce week-end ?
Alors oui, complètement. On a mis en place une manifestation digne de ce qu'on voulait en fait. C'est-à-dire qu'on a un village vendeur où vous pourrez acheter des articles. On aura un village restauration avec deux food trucks pour vous sustenter durant tout le week-end. Et puis la surface de compétition où là tout a été imaginé pour que le spectacle soit complet.
Comment est-ce que les prestations des athlètes vont être jugées ?
Alors chaque équipe aura un juge et chaque mouvement comporte des standards, donc des standards qui sont bien définis. Et puis le mouvement, par exemple, doit répondre à des standards précis. Si le mouvement n'est pas exécuté dans les standards, la répétition n'est pas comptée.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, ça va se dérouler par équipe de 3, mais des équipes mixtes aussi. Pourquoi avoir mis en avant cette mixité ?
Parce qu'il faut savoir que dans le CrossFit, 60% des participants sont des femmes. Et puis que tout simplement, au CrossFit, on prône l'égalité des sexes. C'est-à-dire que toutes les épreuves sont pensées pour que ni les hommes ni les femmes ne soient désavantagés où que ce soit.
Jordan Henneschmann, vous êtes le fondateur du CrossFit à Delémont, également co-organisateur donc du Tech Tree Vitruve Contest, seule compétition de cette discipline dans le Jura. Il y en a également une organisée chaque année dans le canton de Neuchâtel. Merci d'avoir été en direct avec nous. Excellent week-end sportif. Du coup, on rappelle que ça se passe samedi et dimanche du côté de la Croisée des Loisirs.
Avec plaisir. Bonne soirée. Merci.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Et la deuxième partie de notre émission sportive s'arrête sur le rectangle vert, ou plutôt en marge du rectangle vert aujourd'hui. On va évoquer trois lettres. Trois lettres souvent soumises à polémique. La VAR, V-A-R, pour assistance vidéo à l'arbitrage. Les clubs de Super League et de Challenge League ont accepté aujourd'hui à une large majorité de l'adopter dans l'élite du football helvétique. Avant d'en parler avec l'arbitre professionnel Lionel Tchoudi, je vous propose d'écouter le président de Neuchâtel Xamax FCS, Christian Bengli, qui a participé ce matin à l'Assemblée de l'Association Suisse de Football. Il nous explique les arguments qui ont incité les clubs à adopter la VAR en Super League dès la saison prochaine. Christian Bengli.
On remarque maintenant que le football va de plus en plus vite, qu'on a quand même des erreurs d'arbitrage, ça il faut pas oublier de le dire, et puis la frustration, l'injustice a fait pencher en se disant une mauvaise décision d'un arbitre peut par exemple faire perdre une coupe suisse, un match de barrage, il faudra pas oublier, c'est des choses importantes. On a dit qu'il faut qu'on prenne le wagon au bon moment parce qu'il y a déjà des autres pays qui sont avec ce VAR.
Justement, il y a de nombreux championnats d'Europe qui vont adopter la VAR. Il y a également les grandes compétitions européennes qui vont s'y mettre. Ça, c'est un élément qui était très important pour le football suisse, de ne pas rater le wagon.
Oui, par exemple, j'ai appris ce matin que les clubs suisses qui feront la Champions League ou l'Europa League, il y aurait d'office de toute façon le VAR, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas chez nous en Suisse. Voyez, donc, on va simplement prendre le train.
Et donc ça c'est vraiment une nouveauté qui a été accueillie par un grand nombre de clubs positivement. Vous avez été étonné de l'importance du oui entre guillemets.
Il me semblait que c'était une décision logique. Je pense que ce qu'on a vu au championnat du monde, c'était bien. On a aussi eu un petit cours où les arbitres nous ont dit que la décision entre le moment où ils doivent prendre l'image et puis donner la décision, elle doit être maximum de 30 secondes. Et il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'on aurait des 2 minutes et demie d'arrêt et tout. Je pense que c'est quelque chose qui sera réglé puis qui ira de plus en plus vite.
Qui dit nouvelle technologie dit également nouveau budget, nouveaux frais liés à l'adoption de cette assistance vidéo. Pour un club comme Xamax, ça va aussi faire évoluer le budget dans un certain sens.
Alors on a eu une bonne nouvelle et puis je pense que c'est aussi ce qui a fait faire la décision. Ils ont fait un budget, mais normalement, cet argent de 1,5 million pour pouvoir gérer toute une saison serait pris sur les bénéfices de l'équipe nationale, une partie. Pour les clubs, ils ne nous demanderaient rien du tout.
Pour la première saison ou de façon continue ?
Non, de façon générale, j'ai aussi appris que toute cette mise en marche, cet apprentissage du VAR qui débute depuis une année, avec des exercices pratiques depuis le mois d'octobre, il a été pris par l'ASF.
Et ce financement a été confirmé cet après-midi par l'Association Suisse de Football. Lionel Tchoudi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neuchâtelois et arbitre international de football et vous devrez donc siffler dès l'année prochaine avec l'aide de l'assistance vidéo en Super League en tout cas. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle ?
Je pense, comme tout le monde dans le football suisse, c'est une bonne nouvelle pour le championnat et également pour les arbitres suisses d'avoir la vidéo assistance dès l'année prochaine.
Quand on dit saison prochaine, on garde bien les pieds sur terre, c'est dans à peine 8 mois finalement. Est-ce que les arbitres suisses seront prêts?
Alors, on a déjà commencé de travailler en amont depuis quelques mois, justement, pour être prêt dès l'année prochaine pour cette VAR.
Quand vous dites travailler, ça consiste en quoi concrètement?
Alors, on a déjà été faire des analyses vidéo, justement, dans un camion, ou justement avec les écrans, comme on a vu à la dernière Coupe du Monde, pour travailler avec en tant que VAR, en tant qu'assistant VAR, avec l'opérateur aussi à côté de nous, pour apprendre le processus, qui est, c'est clair, pour nous, un tout nouveau processus par rapport à la prise de décision et à l'aide pour l'arbitre dans l'assistance vidéo.
Mais ça fait combien de temps que vous êtes sur le dossier, entre guillemets?
Alors, ça fait déjà un moment que l'arbitrage suisse et puis le championnat, la Swiss Football League travaille sur la VAR. Mais je dirais concrètement, nous, en tant qu'arbitre, ça fait maintenant 4 mois qu'on est sur ce sujet et on a énormément d'investissements ces derniers mois, justement, pour être prêt pour l'année prochaine.
Alors, ça fait 4 mois que vous travaillez sur le sujet. Comme vous dites, il en reste 8, comme j'ai dit tout à l'heure. Il vous reste quoi finalement à perfectionner et à apprendre d'ici à la reprise au mois de juillet?
Alors, premièrement, c'était important de connaître le protocole VAR, hein, qui est donné par l'AFAB, c'est-à-dire comment, en tant qu'arbitre, on doit fonctionner, quelles sont les situations clés où on peut intervenir. Et après, il y a le processus, je dirais, de prise de décision avec l'assistant VAR et l'opérateur qui est à côté de nous pour décider quelle image on veut voir, quel angle on veut voir, quel ralenti, et est-ce qu'on doit intervenir ou pas. Et maintenant, ça se fait justement dans les... autant à la télévision que dans un camion. Puis maintenant, on va passer à une étape supérieure, on va faire des phases off, où justement pendant les vrais matchs de Super League, on va faire une analyse VAR, mais en n'ayant aucune communication avec l'arbitre principal. Et après, on va faire des matchs, je dirais, d'entraînement, où on aura la communication directe avec l'arbitre pendant des situations. Et après, finalement, tous ces étapes-là, on fait pour... l'introduction de la vidéo.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Lionel Tchoudi, vous accueillez ça de façon très positive, vous en tant qu'arbitre international. Est-ce que vous voyez à l'heure actuelle, après avoir pratiqué quand même pendant 4 mois, des inconvénients à cette assistance vidéo?
Alors c'est clair, comme tout nouveau projet, ça va pas fonctionner du jour au lendemain. C'est clair qu'il faut énormément de travail, mais je dirais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de plus-value dans l'assistance vidéo que d'inconvénients, en tout cas par rapport à l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et puis, je dirais aussi les études de la FIFA et puis de l'AFAB ont aussi montré que ça permet de réduire les grosses erreurs. Donc, je dirais, on est tous heureux que l'assistance vidéo arrive en Suisse de manière générale.
L'assistance vidéo, ça implique aussi finalement de faire confiance à des personnes qui ne sont pas forcément sur place, hein, une sorte de travail en commun. Ça peut être une difficulté.
Alors, je dirais, le travail d'équipe dans l'arbitrage est déjà existant, puisque nous, en tant qu'arbitre principal, on doit faire confiance à l'arbitre assistant par rapport au jeu, aussi au quatrième arbitre, des fois, qui nous donne des informations qu'on n'a pas vues pendant le match. Je veux dire, on est tous des arbitres, on est tous formés, on est tous professionnels, on est tous là pour travailler pour que la performance à la fin soit la plus parfaite possible. Donc, à ce moment-là, c'est clair que nous, ça nous pose pas du tout de problème. De faire confiance à des gens qui sont derrière la télévision parce qu'eux, ils ont aussi la possibilité, grâce au ralenti et à différents angles, d'avoir vraiment la décision idéale.
L'arrivée de l'assistance vidéo sur les pelouses de Suisse, du moins de Super League, Lionel Tchoudi, ça va faire de vous un homme, un arbitre moins stressé lors du coup d'envoi d'un match?
Non, il faut bien remettre les choses au contexte. On parle bien sûr d'arbitrage vidéo, mais d'assistance d'arbitrage vidéo. L'arbitre doit toujours prendre la décision finale. Peu importe qu'il y ait une assistance vidéo, il doit toujours décider. Et après la décision, si malheureusement elle est erronée, on la changera. Mais le but quand même d'un arbitre principal, c'est de prendre les bonnes décisions, d'être là pour la protection des joueurs, la protection du football. Et donc l'assistance vidéo, elle est seulement là en cas de secours. Et ça, c'est important justement de le rappeler que c'est pas l'arbitrage vidéo, mais c'est l'assistance vidéo.
Justement, c'est peut-être là qu'il y a une limite assez difficile à établir. Elle est où justement cette limite entre un arbitre qui choisit d'aller voir la vidéo et un arbitre qui n'y va pas?
Alors, dans le protocole d'assistance vidéo, c'est bien marqué que c'est seulement pour des erreurs claires et manifestes, et dans quatre situations. Donc, but ou pas but, penalty ou pas penalty, carton rouge, et puis si c'est un joueur averti, de manière erronée. Donc ça, c'est vraiment ces quatre éléments-là. Là, on parle vraiment des grosses erreurs manifestes qui ont un impact sur le résultat final. Et donc, c'est clair que l'intervention de la vidéo ne va pas arriver très fréquemment pendant les matchs.
Alors, il y a certaines compétitions cette saison hein, qui ont eu la goal line technology, qui ne sert au final qu'à confirmer s'il y a but ou non. C'est finalement une sorte d'intermédiaire entre la vidéo et rien du tout. On n'aurait pas pu commencer par là en Suisse ?
Alors c'est clair que je pense qu'au niveau de la Swiss Football League, pour ça je ne peux pas vous confirmer la chose, mais c'est clair qu'il y a eu des réflexions par rapport à la goal line technology, par rapport aux arbitres additionnels qu'on a vu aussi dans les compétitions européennes derrière les buts, et puis maintenant l'assistance vidéo. Et je pense que de ces trois éléments, celle qui est la plus utile au niveau statistique par rapport, je dirais, pour éviter les grosses erreurs, c'est l'assistance vidéo. Donc ils ont décidé directement d'investir, je dirais, dans ce projet-là qui est pour eux le plus utile pour le championnat suisse.
Justement, d'après vous, l'arrivée de la vidéo en Suisse, c'est aussi finalement la preuve que les arbitres de surface n'ont pas donné satisfaction ?
Alors, je ne connais pas assez le sujet pour répondre à cette question, mais je dirais que l'arbitre de surface répond seulement à la question de penalty ou pas penalty dans la surface de réparation, alors qu'il y a aussi des incidences qui arrivent au milieu de terrain pour des cartons rouges qui, finalement, sont aussi importants pour la protection des joueurs, qui restent la priorité numéro une dans un arbitre. Donc, je dirais que ça aide encore plus que les arbitres traditionnels, mais ça ne remplace pas, je dirais, c'est encore une plus-value supplémentaire.
Quand on entend tout à l'heure le président de Neuchâtel Xamax FCS ou quand on lit certains avis de présidents ou de dirigeants du football helvétique, on voit que finalement la technologie, elle est importante pour tous ces gens-là parce qu'il y a tellement d'enjeux finalement qu'une décision d'un arbitre peut avoir de graves incidences. Vous le vivez aussi comme ça quand vous êtes sur le terrain et la vidéo pour vous, ce serait un soulagement dans ce sens-là aussi ?
Le football, c'est clair qu'il est devenu de plus en plus rapide. C'est de plus en plus difficile pour un arbitre de physiquement d'être partout sur le terrain et d'avoir la lucidité de prendre la décision la plus juste possible. Et c'est clair qu'il y a aussi des enjeux financiers, il y a des enjeux sportifs. Et c'est clair que nous, l'objectif principal, c'est de prendre des bonnes décisions. Et puis, si on a l'assistance vidéo qui nous permet de prendre ces bonnes décisions, nous, on accepte, on sait qu'on est des êtres humains, on fait des erreurs. Donc, ça ne nous pose pas du tout de problème. Et c'est clair que pour tout le monde, je dirais, pour le bien du football, cette assistance vidéo permettra, on dirait, d'encore supprimer 2-3 erreurs dans le futur.
Et vous pensez que l'assistance vidéo dont vous allez bénéficier, elle pourra rassurer finalement certains arbitres qui hésitent encore à se lancer ?
Je pense qu'un arbitre, comme je l'ai dit précédemment, un arbitre, s'il n'a pas le caractère de décider, de prendre des décisions, c'est pas un bon arbitre parce que c'est le métier d'arbitre, c'est de prendre des décisions, qu'on ait la possibilité de corriger ces décisions. Je dirais pas que c'est quelque chose qui va impacter sur l'arbitrage, mais peut-être c'est clair que toutes les conséquences, je dirais, médiatiques qu'il y a eu au niveau national et au niveau international par rapport à des décisions qui ont eu un impact, je dirais, sur le football, c'est clair que l'assistance vidéo va permettre d'éliminer, je dirais, les conséquences néfastes du football.
Lionel Tchoudi, merci d'avoir été en direct avec nous. On rappelle que l'assistance vidéo aux arbitres a été plébiscitée aujourd'hui par les dirigeants des clubs de l'élite du football suisse. La VAR entrera en vigueur sur nos pelouses de Super League lors de la saison 2019-2020. Et avant de nous quitter, je vous propose de nous arrêter sur le programme copieux du sport ce week-end sur RJB, RTN et RFJ. Ça commence ce soir déjà sur RJB avec le déplacement du HC Bienne à 19h45 sur la glace de Genève. Demain, rebelote avec le HCB contre Zoug à 19h45 sur RJB. Et puis le hockey sur glace sera également à l'honneur demain sur RFJ à 17h30 avec le déplacement du HC Ajoie sur la glace de Winterthur. Et en Swiss League également, le HC La Chaux-de-Fonds va à Olten demain à 17h30 avant d'accueillir Langenthal dimanche à 17h. Ce sera à suivre sur RTN. Et les deux matchs seront évidemment toujours à suivre sur RTN, tout comme la partie de Super League de football entre Neuchâtel Xamax FCS et Zurich. Ça, c'est demain à partir de 16h. Il ne reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rfj.ch, rjb.ch et rtn.ch. À très bientôt.
Gap Sport.